m'appelle Geoffroy Schmitt, donc je suis associé au sein de PwC et je suis ravi de vous accueillir au sein de l'Experience Center sur un événement hybride, donc on est à la fois en physique et en virtuel, donc on espère que tout marche bien et désolé pour ceux qui sont à distance pour l'attente de quelques minutes, le temps que les gens arrivent. Donc on est ravi pour ceux qui sont présents de vous accueillir dans notre Experience Center, qui est un des deux sites de PwC à Paris, en plus de notre siège à Crystal Park, que certains connaissent, un magnifique actif. On est ici pour parler de Emerging Trends, donc qui est l'étude que nous co-brandons ou co-écrivons avec Urban Land Institute. Comme chaque année, en fait, on va faire le point sur les tendances majeures qui ressortent de cette étude. Et on va, grâce à nos panélistes et Sébastien, vous présenter finalement les tendances du marché pour l'année prochaine. Quel est le contexte en fait de l'étude et si on prend un peu de recul par rapport à comment se passe cette étude, en fait, elle est basée sur des interviews. C'est une étude qualitative en fait qu'on fait depuis une quinzaine d'années. Et finalement, on interviewe des gens pour savoir quelle est leur vision de l'année qui vient. En fait, on n'est pas du tout sur des datas, on n'est pas sur du passé, on est sur le futur. C'est quoi les sujets qui sont sur l'agenda des dirigeants ou des acteurs de l'immobilier? Vous avez accès à cette étude via le petit QR code. Là, on peut même le faire, on a dit de la salle, en fait, prendre une photo et accéder directement à l'étude. On devient très innovant et digitaux. Vous avez aussi accès sur le site ULI et PwC à l'étude américaine. Et fin du mois, il y aura l'étude sur l'Asie, en fait, qui paraît aussi tous les ans. Donc, cette étude, en fait, elle est vraiment qualitative et c'est là-dessus qu'on va élaborer avec certains messages. Ce sont des avis des gens, donc ce n'est pas tranché, ce n'est pas noir ou blanc. Vous verrez, il y a des gens qui sont d'accord et pas d'accord. Et donc, voilà, l'idée c'est de notre panel, c'est d'illustrer un petit peu les avis des uns et des autres. Et bien évidemment, chacun peut avoir un avis qui est le sien. Je vais laisser la parole à Sébastien qui va donc présenter le panel qui va nous accompagner ce soir.
Merci Geoffroy. Alors Sébastien Choumouni, donc d'Alliance Real Estate, Head of France, et aussi Chair de ULI France. L'étude fait 88 pages, hein. Elle est très complète, hein. Mais après il faut avoir le temps de la lire. Et en fait pour cette session, on a pris quelques slides et on a pris le parti en fait avec nos panélistes de passer de slide en slide et de les faire intervenir sur les slides, sur des sujets précis, plutôt que de regarder après le sujet d'un point de vue global. Et donc, c'est ce que l'on vous propose de faire là. Alors, je vais commencer par introduire nos panélistes. Hein. Merci à eux d'avoir accepté donc cette invitation pour parler de cette étude. Merci Geoffroy de nous accueillir ici. Donc, je vais commencer par Tania. Je vais lire pour éviter de faire des fautes sur non pas le nom, mais sur le titre. Tania Conseil-Jobontemps, présidente de Union Investment, Real Estate France. Ensuite, nous avons Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG. Raphaël Brault, Managing Director, Head of Institutional Business chez AEW. Et enfin, Arnaud Becker, Directeur Général Promotion Île-de-France, Urbaine, ERA et filiale, Bouygues Immobilier. Alors, je vais, à vos premières prises de parole, je vais vous demander de, si vous pouvez un peu plus vous présenter vos sociétés et vous-même, rapidement, ce n'est pas le sujet, mais comme ça, ça met en perspective ce que vous faites. D'accord? Voilà. On passe à la première slide, c'est celle d'après. Le titre de cette année de l'étude, c'est Road to Recovery. Moving on from the pandemic, j'aime beaucoup ce titre-là. Alors, je ne sais pas si tu vas rappeler, les interviews prennent place en septembre, je crois. Donc, septembre, il faut se situer en septembre. En septembre, on a un autre état d'esprit qu'aujourd'hui, hein, malheureusement. Et donc, on a interviewé des gens dans cette période-là où c'était un peu plus euphorique. Hein. Donc, road to recovery, donc on parle vraiment de reprise. Et c'est un chemin de reprise, hein, on verra plus tard. Et on a vraiment l'impression qu'on a mis la pandémie en fait là et qu'on avance et qu'on l'a laissé derrière nous. Donc c'est ce qu'on va voir. L'année dernière, le titre, donc l'étude avait été faite en septembre 2020. Donc on sortait du premier confinement, on ne savait pas si on allait se reconfiner. Donc là, c'était un peu plus, la tendance était un peu plus négative. Le titre était un impact incertain. Donc on savait qu'on allait avoir un impact, hein, ça c'est clair. Par contre, on ne sait pas ce qui allait se passer. Hein, quelle profondeur de la crise, combien de temps, donc l'étude était très intéressante aussi l'année dernière pour voir la perception des interrogés. Donc là, c'est un titre beaucoup plus positif. Je vous propose de passer à la slide d'après. Donc les étapes de reprise, il y en a trois. Donc l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'on a, enfin, ce qui a été appelé post-pandémique high, c'est un peu l'euphorie dont je parlais à l'instant. Et effectivement, hein, à Q3, la croissance du PIB est à, je crois, 6,75, hein, qui est un chiffre quand même assez important, mais qui, quand même, qu'il faut mettre en perspective avec la décroissance du PIB de 2020, hein, qui est de un peu plus de 8% quand même. Voilà, une croissance à 6,75%, c'est quand même assez extraordinaire. Je crois qu'il y a encore un peu de potentiel. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape commence à émerger, en fait, quelques facteurs un peu d'inquiétude. On en parlera plus profondément tout à l'heure, comme l'inflation, comme les coûts de construction, qui peuvent, pourquoi pas, il y en a d'autres, hein, qui peuvent, pourquoi pas, mettre un petit peu de frein à cette reprise. La troisième étape, qui, elle, est une étape beaucoup plus long terme, c'est les changements d'usage, c'est les changements de paradigme. Je rappelle, j'ai plaisir à rappeler qu'en avril 2020, l'ULI avait fait un webinaire qu'on avait appelé Covid, accélérateur de l'innovation, avec des invités très, très intéressants sur le sujet, et dans lequel on se posait la question que, est-ce que ce Covid ne va pas finalement, le côté positif, accélérer les transitions, accélérer les changements d'usage et accélérer le changement de paradigme qu'aujourd'hui, on a tous en face de nous. Donc, et on y reviendra, hein, sur ces sujets-là. On peut passer à la slide d'après.
On peut peut-être…
Oui, pardon. Bon, effectivement, on va commencer à faire réagir donc, nos panélistes. Peut-être commencer par Tania, par Raphaël, pardon.
Je n'ai pas appelé par cœur,
mais on est prévu comme ça. Est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui, parce qu'on n'est pas, on est plus en septembre, on est en novembre, est-ce que tu as l'impression que la pandémie, elle est derrière nous? Est-ce qu'on peut la considérer derrière nous ou pas?
Je pense que la situation sanitaire nous permet de le dire aisément, ouais. On est complètement dépassé cette... Non, évidemment, sur le plan sanitaire, c'est tout ce... On est en train de rentrer dans cette cinquième vague. Donc là j'annonce des évidences. Après, la réalité, c'est que tu l'as dit, sur le plan économique, il y a eu un rebond certain, plus fort qu'attendu. Probablement un rebond qui va se consolider en 2022 avec une libération d'une partie d'épargne qui a été accumulée pendant cette période de lockdown, notamment. Donc ces 18 derniers mois, il y a 180 milliards d'euros accumulés en France, notamment. Je dirais qu'on a retrouvé le niveau de PIB pré-crise. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire que quelque part, on se réinscrit dans la trajectoire pré-crise et qu'on a gommé les effets économiques majeurs de la crise. Reste la question de savoir est-ce que la crise est derrière nous et ses impacts sont complètement maintenant connus et maîtrisés, notamment sur notre secteur qui est le secteur immobilier. Et là, je pense que ça va faire l'objet de discussion aujourd'hui. Mais non, évidemment, la crise a été un catalyseur de tendances, peut-être un révélateur de nouvelles tendances ou de nouvelles émergences de prise de position de certains investisseurs. Mais donc, on ne peut pas dire qu'on soit complètement sorti. On n'est pas retourné vers un marché qui est complètement lisible et sans incertitude.
Christophe, toi, tu es peut-être un peu plus en relation avec des locataires qui sont différents d'investisseurs institutionnels. Quel est ton point de vue sur le sujet?
Ah oui, tout le monde connaît AEW, mais IWG, c'est moins connu. Donc, effectivement, on est très proche des utilisateurs, puisque IWG est une holding qui possède un certain nombre de marques comme Regus et Spaces. Et donc, c'est un réseau de sites, d'espaces de travail flexible et de coworking. Et on est effectivement tous les jours avec des utilisateurs qui peuvent être des grands comptes et des professions libérales. Et en fait, personne ne sait évidemment si on est sorti de la crise ou pas. On voit bien d'ailleurs qu'on ne sait pas si la vague à la cinquième arrive et à quel niveau, etc. Mais par contre, on parlait de prise de conscience. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de toutes les entreprises qui se dit, bon, on est habitué déjà au cycle de crise économique, de crise financière. Maintenant, il y a aussi les menaces pandémiques. Donc, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que ça ne va pas s'arrêter et qu'en fait, il faut être prêt à pouvoir faire face à ces situations-là. Et donc, les questions que les entreprises se posent, c'est comment est-ce que j'anticipe et comment je deviens plus agile pour gérer ces cycles. Et pour nous, on entend trois grands messages. Le premier, c'est quelque chose d'assez pragmatique, opérationnel, mais c'est la mise en place de protocoles sanitaires. Et nous, on a été extrêmement challengés sur ces sujets-là. Il n'y a pas un client aujourd'hui qui vient chez nous sans nous demander quels sont vos protocoles, c'est quoi les composants de vos produits que vous utilisez pour désinfecter, je veux que ce soit certifié. Certains veulent aller au-delà des protocoles gouvernementaux, donc il faut avoir des catalogues avec des équipements, etc. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment le fait que s'il y a des confinements qui se refont, qui se remettent en place, comment on organise le travail à distance. On l'a fait la première fois par défaut. La deuxième fois, il va falloir qu'elle se soit encadrée et optimisée parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de limites. Le travail à distance. Et puis la troisième partie, c'est il y a quand même pas mal d'entreprises qui nous ont dit on vient chez vous parce qu'on ne va pas se refaire prendre au piège du bail conventionnel. Et on aime bien pouvoir, dans une période d'incertitude, rendre les espaces quand on n'en a pas besoin pendant le confinement et les reprendre quand on revient. Donc voilà, les trois points, sanitaire, travail à distance et la flexibilité dans l'immobilier en général pour pouvoir être le plus agile possible.
Merci à toi.
Je propose, Sébastien, qu'on avance un petit peu là. Donc, voilà les différents thèmes qu'on va aborder là, durant cette heure. Le premier sujet donc, qu'on a commencé à aborder, c'est la restauration de la confiance. En fait, bon, là, on est tous un peu sur le choc du retour, on va dire, en flèche de la pandémie à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Mais on en a parlé, Sébastien l'a indiqué. Voilà, il y a quand même un dynamisme économique qui est très présent, avec une reprise qui est quand même très forte, voire supérieure à ce qu'on pouvait anticiper. Et c'était vraiment le sentiment en fait des personnes qui ont été interviewées, puisqu'on remonte à un plus haut qu'on n'avait pas connu depuis presque une dizaine d'années. Donc un sentiment très très positif qu'on va voir plus dans la durée sur les autres thèmes après. Mais donc voilà, ce sentiment, ce rebond. Je vais peut-être me retourner vers Arnaud là, qui a Bouygues, qui est un acteur majeur à la fois sur, on va dire, l'immobilier et la construction plus générale. Est-ce que ce sentiment de confiance est quelque chose qu'on ressent là depuis quelques mois
Alors, en ce qui concerne l'immobilier, en tout cas, il y a plusieurs éléments dans l'immobilier. Il y a plusieurs secteurs. Il n'y a pas que le bureau. Il y a le logement. Donc sur le logement, effectivement, il y a une confiance retrouvée dans je dirais, il y a une vente, une commercialisation qui se fait de façon massive, hein, qui est même un écoulement qui est même supérieur à ce qu'on avait précédemment. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stock, hein, il y a très peu de stock. Et donc, la pénurie a été créée, je dirais, par la crise sanitaire du fait de deux choses. Hein, premièrement, un ralentissement évident, et puis deuxièmement, un décalage des élections qui a créé 6 mois de flottement dans le panorama politique et donc de non-prise de décision et d'absence de permis de construire. Donc, on en ressent les effets maintenant, mais pour autant, je dirais sur le logement, la confiance est présente. J'en dirais pas autant sur le tertiaire, vous êtes plus certainement aussi bien placé ou si c'était mieux que moi pour en parler, mais sur le tertiaire, il y a une certaine incertitude sur quelle va être la nature du tertiaire demain, bureau. Et sur le commerce, dont j'ai aussi la charge chez Bouygues Immobilier, le commerce, l'immobilier commercial, ressent en tout cas une incertitude très importante, puisque les prises à bail sur l'immobilier commercial sont des prises à bail qui sont très très proches de la livraison des actifs. Et donc, tant que les actifs ne sont pas livrés, on ne sait pas ce que ça va donner. Et aujourd'hui, on a quand même une difficulté à remplir pas mal de coques commerciales. Donc, pour moi, la confiance n'est pas complètement restaurée. Elle est restaurée sur une partie de notre dispositif, hein, et notamment sur le logement, qui est un bien de première nécessité. Donc, évidemment, on aura toujours besoin de loger avec une démographie qui s'intensifie. Donc, de toute façon, cette confiance-là, elle est là. Pour le tertiaire et l'immobilier commercial, je suis un peu plus réservé.
Merci. Alors, on passe donc au moyen-long terme, hein, les inquiétudes ou les éléments d'inquiétude, les facteurs d'inquiétude qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, comment lire cette slide? À droite, vous avez les facteurs propres à l'immobilier, à gauche, propres à l'environnement macroéconomique ou au business de manière générale. Pour commencer, je m'intéressais à droite donc aux facteurs liés à l'immobilier. Donc, on se rend compte que le premier facteur, alors comment il faut lire? C'est tout ce qui est jaune et bleu, c'est les personnes qui pensent que ce sont des facteurs inquiétants. Donc, enfin, la somme des deux. Donc, par exemple, sur le premier, qui sont les coûts de construction, il y a 88% des répondants qui ont dit que c'est un facteur inquiétant. Donc, c'est assez, assez massif. Ensuite, il y a la disponibilité d'actifs tu l'as cité, c'est l'offre. Hein, on a un problème d'offre sur le résidentiel, mais pas que. Il y a beaucoup de capital. On a des besoins d'immeubles neufs et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Les volumes d'investissement ont tendance à baisser, malheureusement. Il y a des sujets de décarbonisation. qui sont le top 3 des facteurs inquiétants. Et je m'arrêterai au quatrième, c'est des craintes d'interventionnisme ou de régulation du gouvernement qui, deux idées. Hein. Un, c'est tout ce qui est développement durable. On aime bien faire les choses nous-mêmes, mais effectivement, si on ne les fait pas, bah, ça va venir sous forme de régulation. Et le deuxième point, bon, on a quand même dépensé beaucoup d'argent, le quoi qu'il en coûte a coûté très cher. Et c'est vrai que, voilà, on a tendance à essayer de se récupérer sur les impôts. Et c'est vrai que le secteur immobilier, c'est un secteur sur lequel on sait que quand on augmente les impôts, il n'y a pas des gens dans la rue. Donc, je vais m'arrêter là et je vais peut-être demander à Tania son point de vue sur la partie décarbonisation. Est-ce que pour Union Investment, c'est un sujet qui mérite sa place dans le top 3 des critères d'inquiétude?
Oui, tout à fait. Bon, il n'y a pas que la décarbonisation. Il y a aussi ce qui est utilisé, les coûts des constructions. Je pense que Arnaud va en parler tout à l'heure. Donc, entre le moment où vous achetez l'immeuble et après vous démarrez le chantier, parfois entre la promesse de vente et même l'acte authentique, déjà vous prenez 5 ou 15% de coûts de construction en plus. Il faut négocier avec les entreprises. Donc, ça, c'est difficile à gérer en ce moment. Il y a bien sûr le shortage de produits, donc il y a très peu de produits sur le marché, tout le monde se concentre sur les actifs résilients, le résidentiel, la logistique, les actifs prime, donc il y a beaucoup de compétition. Et quand on disait effectivement les sujets environnementaux, ça c'est vraiment tout en haut de l'affiche chez nous. Et je trouve que le sujet, c'est un sujet préoccupant et assez compliqué parce que finalement on a tous ces normes et tous ces dispositifs qui se superposent, qui sont différents d'un pays à l'autre. En France, c'est pas la même chose qu'en Allemagne et pas la même chose qu'en Espagne, par exemple. Donc, ici, en France, on a des crédits tertiaires. On a aussi, à niveau européen, la CREM, qui est la partie de surveillance et analyse de bilan carbone du portefeuille. On a bien sûr aussi toutes les démarches de surveillance des équipes techniques, le monitoring d'énergie. On a la taxonomie aussi à niveau européen. Et c'est une espèce de millefeuille de normes et dispositifs. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair, on n'a pas des réponses à toutes les questions. Et c'est un sujet vraiment qui est discuté vraiment au plus haut niveau de la société en ce moment. Parce que qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Je veux dire, il faut déjà ajuster le portefeuille, être compatible avec tous ces dispositifs. Ça va générer des coûts, ça va générer des capex, ça c'est important. Après, bien sûr, il y a une obligation collective de décarboniser l'économie et de faire des efforts, mais finalement, c'est une feuille de route qui n'est pas très claire et je pense qu'on aura encore quelques tables rondes et quelques séminaires avant qu'on sache tous comment il faut mettre une stratégie verte qui soit lisible et aussi homogénéisée finalement au niveau des pays européens. Ce serait bien de standardiser quelques...
Ça ressort de l'étude, hein. C'est un manque de standard et beaucoup de communication sur on sera zéro carbone en 2040, 2050, sans vraiment savoir ce qu'il est capable de faire pour y arriver. Ouais. On se donne le temps, mais voilà, il y a pas mal de points d'interrogation. Arnaud, concernant, alors, j'imagine que vous, les coûts de construction, c'est un sujet primordial, essentiel.
C'est un sujet primordial. Alors, sur les coûts de construction que je place côté constructeur ou côté promoteur, c'est un sujet de préoccupation, ainsi que les délais pour la livraison de nos actifs, nos actifs de promotion, qui sont fortement impactés par la pénurie de matériaux. Aujourd'hui, on a des difficultés à trouver du bois, on a des difficultés à trouver du bois transformé, donc tout ce qui est de l'huisserie est compliqué à obtenir. Donc là, on subit effectivement des décalages. En ce qui concerne le coût de construction, évidemment, comme le disait Tania, on signe des contrats lump sum avec les entreprises qui, elles, se retrouvent dans des situations délicates puisqu'elles doivent se fournir. Donc, on est obligé de toute manière d'abonder dans un certain sens, en tout cas d'avoir un peu de sympathie vis-à-vis de ce sujet-là. Pour autant, le marché derrière et l'acheteur, l'achat, lui, il suit une logique de marché. Donc, je pense, et il faut être vigilant quand on a des fluctuations comme celle-ci, fluctuations sur l'inflation dont on va parler, sur le PIB, sur les coûts de construction. on a un risque important d'effet ciseau. Et je pense qu'on n'en est pas loin. On a eu les chiffres du CAPEM, donc qui est l'organisme qui centralise le niveau des ventes, en tout cas sur l'Île-de-France, pour le CAPEM, du troisième semestre, qui ne sont pas très, très rassurants. Il y a eu un ralentissement sur le logement, en tout cas, qui est quand même le gros driver de la promotion immobilière en France. Le nombre de ventes s'est réduit, ce qui laisse à penser qu'on atteint un niveau... le niveau maximum d'acceptabilité hein, des acheteurs, des acquéreurs, pourtant les prix montent. Donc, si on se prend une hausse des taux ou un truc de ce genre-là, on va avoir effectivement une baisse, on va en parler, on aura à ce moment-là une baisse de la demande pour une hausse des prix. Et donc là, c'est une spirale qui est quand même difficile, difficile à gérer. Donc ça, c'est une vraie problématique. Je ne vais pas présenter un peu, Daniel l'a dit, hein, sur l'aspect environnemental, qui est un élément primordial, mais qui est pour moi pas un élément d'inquiétude en tant que de norme, mais une nécessité absolue d'abonder dans ce sens-là, qui est plus une inquiétude pour les citoyens, eux, n'ayant pas nécessairement toute la connaissance de ce qu'il faut faire. Mais ça chamboule énormément le paradigme de la construction et du produit.
Alors, j'ai une question que tu me disais, en fait, l'augmentation des coûts de construction, qui va la prendre à sa charge, en fait, l'entreprise générale, le constructeur, le promoteur, l'investisseur, le client
Je vais dire, quand j'étais constructeur, je disais que c'était le constructeur qui le prenait à sa charge, et donc c'était un choc. En tant que promoteur, je te dis la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile dans l'immédiat, à l'instant T, de le répercuter à l'acquéreur. Ça paraît compliqué. On signe un acte authentique et donc on ne peut pas le répercuter. Ça se traduira très certainement par une correction dans le temps sur une hausse des prix, mais comme on est déjà à un niveau, je pense, plateau, en tout cas sur les prix, puisqu'on ne suit pas la même hausse maintenant qu'on l'a suivi précédemment, et tant mieux pour les acquéreurs. On va avoir du mal à la répercuter. En ce qui concerne les promoteurs, les constructeurs, les entreprises, chacun prend sa part. Le constructeur en prend une partie, les entreprises en prennent une partie, et le promoteur en prend également une partie. Parce que, on ne peut pas se retrouver avec des entreprises qui, elles, vont avoir des difficultés à fournir et ensuite disparaître, ce qui n'est pas du tout notre souhait ni notre intention. On en suit une partie.
Merci. Alors, on va passer sur la partie gauche du tableau. Donc, le premier élément d'inquiétude, c'est assez surprenant, mais ce n'est pas si surprenant que ça, en fait, c'est la cybersécurité, parce qu'on a quand même digitalisé beaucoup ces quelques dernières années, sans pour autant trop se préoccuper de la cybersécurité. On a vu, dans un passé assez récent, des attaques qui ont été extrêmement contraignantes. Donc, c'est le sujet d'inquiétude qui est le plus important. Ensuite, l'inflation et les taux d'intérêt. Je vais me tourner vers Raphaël. Toi, sur ce que tu penses, en fait, l'inflation, historiquement, j'ai commencé le loyer il y a longtemps, on a toujours dit que c'était un hedge contre l'inflation, l'immobilier, parce que les loyers sont indexés. Sauf qu'effectivement, pour combattre l'inflation, il faut remonter les taux. Et là, qui, pour le coup, c'est l'effet ciseau dont tu parlais avant. C'est quoi ta vision sur le sujet?
Alors, ma vision, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire aussi sur la pénurie partielle de matières premières, potentiellement main d'œuvre dans certains secteurs, le phénomène de rebond potentiel de l'inflation, pas potentiel, un réel, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en Europe, etc. Il faut essayer de remettre ça un tout petit peu en perspective. On est quand même sur là tu l'as dit tout à l'heure, on est sur un rebond PIB, mais par rapport à une baisse violente l'année dernière. De la même manière, effectivement, on compare l'inflation par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Et donc, sans dire que cette inflation sera nécessairement temporaire, mais je pense qu'il y a d'abord une inflation qui est liée à un rebond technique, un rebond d'augmentation des matières premières. Par ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les banques centrales de différents pays ou continents sont dans cette logique de... ne pas réduire de manière significative tout ce qui sont les mesures accommodantes monétaires pour ne pas justement risquer de freiner ou d'endiguer cette reprise économique. On a également un phénomène d'endettement des États qui est extrêmement important et qui s'est accentué avec la pandémie, qui fait que politiquement, on a une bombe à retardement si on commence à réaugmenter les taux, et on voit bien qu'encore une fois, que ce soit la BCE, la Fed, ils ne sont pas dans cette logique de remonter les taux. Et puis, le vrai risque d'inflation, c'est ce sera un risque avec un cycle augmentation des taux, augmentation des salaires. Et aujourd'hui, on voit relativement peu de pression à la hausse sur les salaires, même si, encore une fois, dans certains secteurs, on connaît des pénuries de main-d'œuvre de plus en plus saillantes, et même si dans certains pays, on atteint des niveaux de plein emploi. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, plein emploi depuis un certain temps, rebond économique majeur, relance économique forte et inflation extrêmement importante, pas d'augmentation des salaires de manière massive. Donc, de ce point de vue-là, nous, on reste dans un scénario central où on pense que on va revenir à des niveaux d'inflation qui sont peu ou prou en ligne, en plus les banques centrales mettent des horizons d'inflation plutôt à long terme dans leur mission de contrôle de ce phénomène inflationniste. Et donc on a plutôt un scénario qui est 60%, on va rester dans une inflation relativement maîtrisée, légèrement en deçà de 2%, et un scénario plus inflationniste, avec une remontée des taux plus importante, qui est pondérée dans ce cas-là 40%. Dans le premier scénario, on envisage d'ici à 2026 une remontée des taux longs d'une cinquantaine de points de base, ce qui, honnêtement, en termes d'impact sur l'immobilier, quand on sait qu'on a des primes de risque historiques qui vont largement au-delà de ce qu'on a pu vivre ces 15 dernières années, est absorbable. Dans le scénario plus inflationniste, on est sur une remontée des taux longs d'une centaine de points de base d'ici à 2026, ce qui, là encore, peut-être posera un davantage de questions, mais qui reste, entre guillemets, encaissable par les marchés immobiliers. Encore une fois, aujourd'hui, nous, dans une étude qu'on conduit et qu'on publie de manière assez régulière, entre le taux de rendement exigé par les investisseurs et le taux de rendement attendu, l'exigé étant la prime de risque de l'immobilier, la volatilité, la liquidité, maintenant l'ESG qu'on a inclus dans cette étude de taux de rendement exigé, par rapport au taux de rendement attendu, on a un écart de 135 points de base. Donc on voit qu'on a de la place dans l'immobilier pour absorber un léger rebond de l'inflation et une remontée des taux éventuellement.
Merci. Comme tu l'as dit, Sébastien, c'est une salle qui est très riche. Et donc, un des autres éléments, en fait, qui ressort de l'étude, et moi, ça m'a plutôt étonné, c'est le management of the workforce. En fait, c'est assez partagé, en fait, entre les personnes qui se disent que c'est un sujet et d'autres qui disent que ça l'est moins. De nos discussions, enfin, moi, de mes discussions avec des dirigeants, que ce soit dans l'immobilier ou en dehors de l'immobilier, on ressent une certaine pression, en fait, pour recruter, pour trouver des talents. On reparle d'une guerre des talents qui aurait été exacerbée avec le Covid. Là, je me retourne vers toi, Christophe. Comment tu vois ce sujet, toi, à l'aune de quelqu'un qui attire des jeunes, des talents? Est-ce que c'est devenu un enjeu plus important qu'au moment de l'étude, peut-être en septembre, suite à ces pensions inflationnistes et de trouver les bonnes personnes?
Je ne sais pas si c'est un enjeu majeur, médium ou mineur, mais en tout cas, force est de constater selon moi que c'est un enjeu beaucoup plus important qu'avant la crise du Covid. On avait l'habitude, nous, d'être en face de directeurs immobiliers. Aujourd'hui, on a systématiquement le DRH avec le directeur immobilier. Et le sujet de comment est-ce que je mets en place des conditions d'organisation du travail, d'environnement de travail pour attirer et conserver des talents, c'est un sujet qu'on rencontre tous les jours. Donc, je crois que ça correspond vraiment à une réalité, et l'immobilier a quelque chose à apporter là-dessus, ça c'est évident. Et il y a certains secteurs, comme le digital, le numérique, où il y a vraiment une crise de recrutement, et les localisations, les services qui sont fournis au sein des espaces de travail font partie de la panoplie que les entreprises mettent en avant par rapport à leur... par rapport aux candidats, et sur certaines générations, cette notion d'environnement de travail, d'organisation de travail, est devenue le critère de choix numéro un devant la rémunération. Alors peut-être que quand ils vont avoir des familles, tout ça, la rémunération va revenir, va payer les factures, mais en tout cas, ça devient quelque chose de très prégnant. Et la deuxième chose, toujours liée à la workforce, mais pas simplement au recrutement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la mise en place du travail à distance, du télétravail. Parce qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose d'assez simple, on a dit, ça y est, on a mis en place politique de travail, c'est 2 jours par semaine au bureau, et le reste du temps, vous travaillez soit chez vous, soit dans un tiers-lieu, peu importe. Mais c'est pas ça l'organisation du télétravail, c'est une organisation du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que font les gens quand ils viennent sur le lieu de l'entreprise, pourquoi est-ce que le présentiel est justifié à ce moment-là, c'est-à-dire si c'est pour aller dans un bureau, s'enfermer, reprendre vers le soir, ça n'a pas de sens. Donc c'est l'agenda que vont construire les entreprises pour faire en sorte que quand les gens viennent sur le lieu de travail, il y ait une vraie valeur. Et puis au-delà de ça, c'est ensuite, effectivement, quand ils travaillent de chez eux, quels sont les outils, les policies, etc., qui sont mis en place, sachant que là aussi, moi, je vois des candidats qui arrivent et qui disent, dans les premières questions qu'ils posent, c'est quelle est votre politique de télétravail, à partir d'où et combien de temps et comment je vais pouvoir travailler à distance. Bon, donc, c'est, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui revient énormément.
Et je confie à nous qui recrutons entre 1000 et 1500 personnes par an, c'est effectivement une question qu'on a maintenant de façon assez systématique, voire des questions, enfin voilà, est-ce que c'est possible de travailler sur des dossiers à Paris, de Nantes, Bordeaux ou Lyon, ou est-ce qu'il faut vraiment que je m'installe à Paris. Donc on voit que c'est vraiment une tendance de fond. Ça me fait aussi penser dans les tendances de fond, pour ceux qui étaient à la conférence ULA la semaine dernière, il y avait l'excellente keynote de François Troche sur le positionnement de la défense par rapport aux autres zones. Et on voit que les attentes sont en train d'évoluer, mettant en avant le fait d'accéder plus facilement à la défense, pour attirer les talents. Voilà, on voit que chacun amène sa pierre à l'édifice pour apporter l'attractivité aux zones et s'adapter finalement à une demande qui est en train d'évoluer, qui a probablement été accélérée par l'effet du Covid.
Alors, juste avant, il y a un autre élément qui évolue aussi, hein, c'est le point 6, je crois, 3-6, c'est la stratégie d'investissement en fait. On est dans un marché qui change, tu fais référence à un changement des usages, un changement de paradigme, hein, et qui, pour certains, en fait, nécessite un changement de stratégie d'investissement. Parce que voilà, il y a pas beaucoup de résidentiel. Hein. Est-ce que si on veut acheter du résidentiel aujourd'hui, ben, il n'y a pas beaucoup de produits. Est-ce que pour le coup, c'est la transition sur la slide d'après, est-ce qu'il n'y a pas des classes d'actifs qui émergent en remplacement ou en parallèle des classes d'actifs traditionnelles? Je vais me tourner vers Raphaël sur la slide en fait, d'après. En fait,
Ouais, alors juste avant d'aller, en fait, ouais. C'est vrai que moi j'étais assez interpellé par ce sondage, entre guillemets, hein, sur l'item numéro 6. Est-ce que c'est une des préoccupations des investisseurs que de devoir faire évoluer leur stratégie d'investissement? Et finalement, on est en sixième place des préoccupations des investisseurs. Et pour MW, qui est une société d'investissement pour compte de tiers, donc qui travaille avec une pluralité d'investisseurs institutionnels et pas que institutionnels, puisqu'on fait aussi des véhicules d'investissement collectif pour du grand public, hein, avec des thématiques qui, évidemment, doivent répondre aux attentes des épargnants. On voit tous, aujourd'hui, tout le monde a à la bouche le résidentiel, la logistique, le commerce devient presque un gros mot, et le résidentiel et le bureau, c'est le grand point d'interrogation avec tout ce qui a été dit. Changement, il faut rendre le bureau attractif, moins de bureaux, mais du mieux bureau, justifier pourquoi on fait venir les gens sur place, etc. Mais donc avec une forme d'attentisme. Donc, quand j'ai vu le résultat de ce sondage, et entendre que les investisseurs ne sont pas très préoccupés par un changement de stratégie, alors c'est peut-être pas une préoccupation de soi, mais pour autant, d'abord, ces marchés sont aussi profonds, résidentiel, la logistique, n'ont à eux deux pas la profondeur que peut avoir le bureau en termes de capacité d'investissement. Et donc, j'étais un peu surpris parce qu'encore une fois, aujourd'hui, clairement, toutes les tendances, elles sont en train de se modifier et l'allocation d'actifs dans les portefeuilles des investisseurs, elle est en train de se modifier en profondeur, en tout cas, on le vit tous les jours. Donc, je trouvais que c'était assez paradoxal de voir ça, mais on va passer sur la suite. Ouais. C'est intéressant.
Ah, voilà. Et effectivement, c'est pas tout à fait en ligne avec la suite de la présentation, puisque ce qu'on voit, effectivement, ce sont de nouvelles tendances. Alors, ça fait, on va dire, plusieurs études qu'on en parle. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça s'est accéléré parce que il y a ces structures, Raphaël, ces interrogations sur le bureau, le devenir du bureau, Christophe en parlait aussi, le commerce, on l'indiquait. Donc voilà, ce qu'on voit arriver comme nouvelle tendance, ce sont des nouvelles classes d'actifs qui sont parfois des classes d'actifs pas très développées, voire des niches en fait, donc qui n'ont pas du tout la profondeur des marchés qu'on peut connaître comme le bureau, donc les infrastructures liées à l'énergie, on comprend pourquoi, hein, life science, voilà, donc on a beaucoup de demandes là-dessus, alors c'est quelque chose qui est très développé aux États-Unis ou un peu plus encore en Angleterre, enfin un peu en Angleterre, mais on va dire en France, ce sont des tout petits marchés, alors logistique évidemment, les data centers, la FR, alors on voit toutes ces classes d'actifs en fait, là où il y a beaucoup d'attrait, mais derrière, il n'y a pas forcément de marché, en fait. Donc, on est voilà, dans un environnement un peu complexe, avec des demandes, on va dire, probablement, qui sont toutes sur certaines classes d'actifs. Et autrement, pour les actifs, on va dire, historiques, sont peut-être le bureau ou le commerce, des choses très spécifiques de niche où finalement tout le monde va un peu vers le même type d'investissement et donc se dit bon bah est-ce qu'on n'ouvrirait pas vers d'autres choses qui sont en fait en ligne avec ces nouveaux besoins ou ces besoins du futur, même si le marché il est encore à ce stade peu développé. Du coup.
Ouais, non mais alors moi j'ai lu une étude récente qui m'a interpellé. Qui était toujours sur ces choix d'allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels principalement aux États-Unis. Et en fait, quand on regarde la composition de portefeuille immobilier aux États-Unis, c'est 40% d'alternatifs. En Europe, on est à moins de 10%. Donc, je ne dis pas que, comme par le passé, nécessairement l'Europe est en retard sur les US, mais on a quand même plutôt constaté voilà, ces 20 ou 30 dernières années, moi, depuis que j'officie dans ce milieu-là. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'on va avoir des consolidations de certains marchés, un approfondissement. Le life science m'a fait sourire tout à l'heure parce que je mets au défi la majeure partie des personnes présentes dans la salle d'être capable de me donner une définition de ce qu'est le life science, et moi le premier, hein, donc je m'inclus dans le lot. Mais on a tous ce mot-là à la bouche. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On a quelques exemples aux US, mais avec des centres universitaires de recherche qui ne sont pas du tout aussi développés en Europe. Mais néanmoins, on pense qu'effectivement, il faut, là, on est dans la thématique Emerging Trends, il va y avoir des marchés qui vont se structurer, se consolider, qui vont du coup probablement aussi offrir des rendements qui vont se compresser à l'avenir, donc avec la création de valeur pour ceux qui seront les first movers, entre guillemets. Et donc voilà, après, sur tout ce qui est logistique résidentielle, je pense que on connaît tous les drivers, entre guillemets, du pourquoi de l'intérêt des investisseurs sur ces classes d'actifs. Le work from home vient renforcer encore le résidentiel et il va falloir être encore mieux logé et bien logé, sans parler des traits démographiques. Sur la logistique, on sait bien que le reshoring et l'approfondissement du e-commerce, etc., tout ça crée des besoins en mètres carrés logistiques très importants. Pour le reste, ça reste à voir, mais on est très attentif et on sent qu'évidemment, il va y avoir de plus en plus, d'ailleurs, de venture capitalistes qui lèvent des sommes très importantes pour soutenir des initiatives, des startups dans la santé, dans la recherche, etc. Donc, il va y avoir effectivement cette émergence. Et à n'en pas douter, les portefeuilles vont se rééquilibrer parce que le bureau n'aura plus nécessairement la part qu'il occupait jusqu'à présent, sans dire que le bureau va disparaître, parce que ça, c'est loin d'être ma conviction, mais il n'occupera peut-être plus la part même qu'il occupait jusqu'à présent.
Peut-être Arnaud, sur le résidentiel, tu as indiqué finalement cette pénurie qu'il y a actuellement, et on le voit même des investisseurs, Raphaël cherche peut-être du résidentiel lui-même, des portefeuilles de résidentiel, il n'y en a pas beaucoup. On a vu certaines foncières qui ont fait des accords avec des promoteurs hein, pour, on va dire, aller chercher à la source finalement le produit, puisqu'il n'y en a pas. On a vu maintenant même des fonds d'investissement, Lodestar par exemple, qui vient de racheter Green City, d'autres fonds d'investissement qui sont immobiliers, on va dire, hein, qui cochent la classe d'actifs en rachetant des promoteurs, en fait, finalement. Donc, on voit ce changement, finalement, chacun a fait évoluer sa stratégie. Comment tu vois, là, cet attrait sur le résidentiel et, du coup, cette…
Déjà, premièrement, pourquoi pénurie de produits ? La pénurie de produits, elle est quand même liée à une décision politique. Hein. Aujourd'hui, même s'il y a une volonté politique de pousser, de relever le résidentiel, aujourd'hui, on a quand même des autorités locales qui suivent le mouvement de leurs administrés, de leurs citoyens, qui sont fortement opposés à une densification, qui sont fortement opposés à un développement de résidentiel, qui est très égoïste hein, comme propos. Hein, c'est électoraliste et égoïste, bien évidemment, puisqu'il faut loger, la population, il faut loger décemment. Donc, c'est un bien de première nécessité. Donc, sur tout ce panel qu'on voit là, bien sûr, tout ce qui concerne le logement, que ce soit les RSS, donc Retirement Assisted Living, ou bien l'affordable housing et le private residential sector, on a des gros volumes, quand même, malgré tout, puisqu'il y a une attractivité évidente sur ces produits-là. On a, depuis peu, hein, ça n'a pas été le cas dans le passé, une attractivité de ce genre de produit vis-à-vis des investisseurs qui étaient des investisseurs qui, initialement et historiquement, étaient plus tournés vers le tertiaire, comme étant un produit de report, et puis un produit de report qui peut prendre une part très, très importante assez rapidement, comme en faisait Etard un peu juste à présent. Donc, je pense que ça va continuer à se développer. Il y a eu, depuis le début de l'année, un certain nombre de paliers qui ont été mis sur le marché français de logements pour les investisseurs, donc sur différentes zones du territoire, qui ont tout de suite suscité un intérêt assez, assez important, puisqu'il y a un shortage dans la capacité d'investissement sur des produits plus traditionnels pour les investisseurs. Donc moi, je pense que ça va continuer. Je pense que l'investissement privé, en tout cas, a une place à prendre aux côtés des grands bailleurs sociaux qui, eux, font ce même boulot. Hein. Ils investissent pas uniquement, un bailleur social n'investit pas uniquement dans le social, il faut le savoir. Ils investissent aussi assez massivement et ils se développent en ce sens sur de l'investissement dérégulé, privé. Donc je pense que c'est un élément qui va se développer. Pour ce qui est du logement senior, c'est déjà un mouvement de fond depuis un moment. Hein. Oui. Ça, de toute façon, on le sait tous, ce mouvement de fond, il existe depuis... Je n'ai plus les chiffres en tête, mais la croissance de, en tout cas, des réalisations et des opérations de promotion en résidence senior est quasi exponentielle aujourd'hui. Ça tassera au bout d'un moment, mais en tout cas, les conversions de bâtiments et des bâtiments neufs est très, très importante. Donc, je suis pas surpris de les voir, ces éléments-là. Je suis surpris de les voir si loin. C'est vrai qu'il y a quand même des sujets qui sont des sujets de niche et qui sont peut-être un peu des tendances, des phénomènes éphémères, on dira. D'autres qui sont des tendances de fond. Mais pour le résidentiel, je suis convaincu que c'est une vraie tendance de fond.
Juste un petit commentaire sur effectivement le affordable housing, hein, c'est aussi, ça nous permet de cocher la case S de l'ESG. C'est pas neutre, hein, c'est pas effectivement que les bailleurs sociaux qui font du social. Non, on aime faire aussi de l'intermédiaire parce que ça nous permet de faire un peu de social. Sur le PRS, c'est intéressant parce qu'effectivement c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance parce que c'est aussi en réponse à une tendance d'ubérisation, hein, l'accès à la propriété, on est moins propriétaire de sa voiture, on prend l'Uber, et effectivement, peut-être que demain, cette ubérisation nous permettra d'être plus flexible dans nos choix immobiliers. Donc, c'est effectivement quelque chose qui... c'est une tendance, une lame de fond, ça.
Et je pense que sur l'ubérisation à laquelle tu fais référence, on n'a pas fini la démarche, puisque le modèle de propriété étant... au même titre que le modèle de bureau et donc l'occupation des bureaux, parce que évolue et le modèle de propriété va évoluer encore avec les sujets de démembrement, les sujets de shared ownership, les sujets de propriété à vie hein, qui ont été aussi développés. Donc il y a pas mal de produits qui se mettent en place sur le marché qui permettent un accès au plus grand nombre au logement comme étant un produit d'usage, mais aussi un produit d'investissement.
Ouais. On en reparlera un peu plus tout à l'heure sur les tendances long terme.
On a vu les classes d'actifs, on va peut-être passer au...
Mais je trouve que c'était intéressant dans les tendances qui ne sont pas des tendances sur une classe d'actifs à comprendre, mais à l'intérieur de cette classe d'actifs, c'est en logistique. C'est qu'on n'a pas parlé, même si on l'a dit en filigrane, hein, des problèmes de... libération foncière, de non-libération foncière, de volonté évidemment pour des raisons évidentes environnementales et biodiversité, de non-artificialisation des sols. Qui sommes plutôt pas mal exposés à la logistique, une des tendances qu'on voit de plus en plus émerger, c'est des bâtiments logistiques à plusieurs étages, ce qui n'existait pas ou très peu en Europe, qui existe beaucoup en Asie, pour des raisons de rareté foncière évidente. Ça fait vraiment partie des sujets, je pense, qui vont devenir de plus en plus présents et qui va nous obliger justement sur une je dirais, terrains qui sont contraints à commencer à réfléchir à la verticalité sur un certain nombre de produits.
On a parlé des actifs, on va parler peut-être des villes d'investissement.
Donc c'est effectivement une étude européenne qui classe les villes. Encore une fois, c'est la perception des interrogés. Donc qui classe Londres, Berlin et Paris dans les trois premières places. Il y a beaucoup de villes allemandes, c'est pas non plus pour rien. Mais c'est assez similaire en fait à l'étude de l'année dernière que j'ai repris. L'année dernière, c'était c'était Berlin, Londres et Paris. Donc c'est assez similaire, on a juste changé l'ordre de
Berlin. C'est pas très original.
Mais ça veut dire que ce sont des villes qui sont très attractives, qui sont de plus en plus attractives pour Londres. Berlin l'est depuis beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, c'est normal que ça ressorte. Juste, je fais une petite parenthèse. Alliance Real Estate sort une étude tous les ans également sur ce qu'ils appellent Cities That Work en Europe. Qui a un classement légèrement différent. Je vais vous le citer, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc, c'est Londres, Stockholm, Berlin, Amsterdam et Paris. Donc, on est légèrement différent. Il y a Stockholm qui vient en deuxième place et Amsterdam. Alors, nous, on prend beaucoup de critères. Ce n'est pas la perception, c'est des critères assez factuels, notamment de densité. On considère que les villes qui vont être attractives, c'est les villes qui ont leur bureau à côté de zones d'habitation assez denses, de façon à éviter justement les commutes, on parle de la ville du quart d'heure, etc. Donc, on retrouve quelques villes, mais c'est légèrement différent. Cette étude sortira dans les jours qui viennent, peut-être la semaine prochaine. Ouais. Tania, toi qui Union investit un peu partout en Europe, quel est ton avis sur ce ranking? Tu es assez d'accord ou pas?
Oui, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de surprise. Je veux dire, Berlin et Londres, peut-être, qui ont interchangé ces places, mais ça correspond tout à fait à notre stratégie d'investissement. Toutes ces villes, c'est ce qu'ils appellent les Anglais « gateway cities », donc les grandes métropoles internationales, européennes, qui sont des métropoles. Londres, c'est une ville, finalement, et un marché qui est extrêmement transparent, et malgré les Brexit, malgré les élections, ils arrivent toujours à rebondir et c'est un marché finalement profond aussi, très professionnel et qui sait aussi s'est diversifié parce que avant c'était la finance, maintenant il y a ce qui s'appelle aussi la high-tech et les life sciences, donc les sciences de la vie autour de Londres, Cambridge et aussi Oxford, donc Londres, c'est une ville, il y a un marché extrêmement liquide, il n'y a pas de doute. Nous, on est investi en UK, Irlande, à plus de 4 milliards d'euros maintenant, donc c'est un de nos marchés stratégiques. Ils ont même dépassé la France, ce qui m'embête un peu, voilà, il faudra qu'on fasse un travail. Et bien sûr, après, les villes allemandes, elles sont toujours dans les têtes des classements. Pourquoi? On le sait tous, c'est une économie très robuste, très solide. Et c'est vrai que les villes allemandes ont aussi un taux de vacances assez faible. Et je vois aussi que Paris, c'est toujours un peu dans les top 3, top 4. Donc, moi, je milite beaucoup pour Paris, bien sûr, auprès de mes actionnaires. Et c'est vrai que c'est un marché, le centre de Paris, c'est un marché vraiment qui est profond. Il y a un décap quand même très, très dynamique, très significant. Et c'est un marché vraiment avec un périmètre utilisateur extrêmement, extrêmement large. Et c'est un marché finalement aussi qui est très professionnel. Donc, ça ne m'étonne pas que Paris est toujours dans les premiers de la classe. Et je vois Madrid et Amsterdam. Amsterdam aussi, c'est un marché qui nous intéresse beaucoup, avec une croissance forte, une démographie jeune. Ils ont profité du Brexit, ça c'est clair. Et c'est un marché aussi qui, effectivement, tout le marché d'ailleurs dans les Netherlands, en Hollande, qui propose beaucoup, beaucoup de possibilités, que ce soit dans le bureau, dans les résidentiels et aussi dans la logistique. Donc, pas de grandes surprises cette année. Ça confirme la tendance.
Et Londres, parce que Londres, l'année dernière, il y a quand même le Brexit. Ça n'a pas Chez vous, la stratégie Londres n'a pas évolué par rapport
Non, ça n'a pas évolué parce que là, récemment, on a encore investi dans un immeuble avec un bail très long. C'est des engagements longs. C'est, comme je disais, c'est un marché finalement profond. Il y a aussi un écart en termes de rendement qui est favorable. Bon, il y a les hedging costs, mais il y a toujours autour de 100 points de points de base de yield, de gap, qui est très intéressant. Et c'est un marché très professionnel et très transparent, beaucoup plus que les autres marchés européens. Donc, ça met en confiance, bien sûr, les investisseurs américains, asiatiques. C'est la porte d'entrée et aussi les investisseurs européens.
Et allemands. Je confirme aussi.
Et allemands, oui, je confirme.
Ce qui nous concerne, je confirme aussi.
Même si les Anglais sont parfois perfides.
Non, tout à fait.
On a regardé finalement là les éléments de medium term. On va passer sur du long terme. Finalement, quels sont les enjeux auxquels l'industrie est confrontée? Je te repasse la main.
Il y a deux slides. Hein. Première slide qui, en fait, est-ce que les transformations d'organisation sont des priorités pour vous ou pour vos entreprises? Je pense que derrière cette question, il y a tous les sujets d'agilité, de digitalisation auxquels on fait face. Est-ce que ce sont des sujets qui sont nécessaires dans notre entreprise? Oui, on a une réponse assez marquée. Je pense que le sujet de fond, c'est in fine, on est moins dans l'industrialisation que dans la création, et effectivement, on a besoin de talents pour nous aider à faire ces tâches de création et de collaboration, et effectivement, il faut qu'on se transforme pour pouvoir y arriver. Donc, je pense que là, ce n'est pas une surprise. On va passer peut-être à la
côte est assez… Il y a toujours des citations, en fait, qui sont prises lors d'interviews. Et bon, voilà, parfois…
C'est sûr que, ouais, c'est pas facile. Après, il y a des passionnés de musée. C'est sûr qu'on aurait du mal. La scène après est intéressante. On est en plein dans justement qu'est-ce que c'est le changement de paradigme, changement d'usage, dont on a parlé en fait en fil rouge hein, de cette conférence. Donc je vais commencer dans la partie ESG. C'est pas complètement ce que l'on fait sur nos immeubles. Tania en a parlé tout à l'heure, c'est très important, mais c'est aussi comment les entreprises elles se changent. Elle est beaucoup plus respectueuse, l'entreprise. On parle de raison d'être. On parle d'entreprise à mission, on parle de B Corp hein, de plus en plus. Donc c'est vraiment une lame de fond, l'ESG, de social et de gouvernance, hein, j'oublie ces points-là qui sont très importants. C'est une lame de fond qui prend, Tania, tu le rappelles tout à l'heure, qui est au plus haut de nos entreprises. Et donc ça, c'est vraiment les tendances long terme, et on a commencé, bien sûr, et ça va changer profondément la façon dont nos entreprises sont organisées. Deuxième point, c'est Real Estate as a Service. Hein. Je pense que, effectivement, c'est Christophe qui en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui aimeraient bien rendre les clés pour quelques mois et revenir après. Aujourd'hui, malheureusement, la structure de nos baux ne nous permet pas. Et nos baux, en fait, ont paradoxalement des incentives quand ils sont long terme. Donc, et ça pose un problème parce que nous faisons des investissements lourds sur des immeubles. Si on n'a pas d'investissement long terme, si on n'a pas d'engagement locatif long terme, est-ce qu'on est capable de faire ces mêmes investissements? Je rappelle que la verdification ou le verdissement de nos immeubles va coûter beaucoup d'argent. Troisième point, c'est en fait, moi ça m'a frappé pendant le confinement. En fait, on a fermé pas mal beaucoup de commerces ont fermé, et en fait, on est rentré dans une discussion avec nos locataires et on les appelle toujours des locataires. En fait, on parle de propriétaire-locataire, c'est la relation qui existait. Je pense que cette relation a changé. Aujourd'hui, on parle de client-fournisseur. Hein. On fournit des lieux à des locataires. Et moi, pendant le confinement, j'ai un jour dit qu'on était rentré dans une relation de partenariat. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Hein. Nous, on a des locaux qui doivent être loués, et le locataire a besoin de locaux pour exercer son activité. Et effectivement, ceux qui pensent qu'on a envie de virer notre locataire pour avoir des locataires qui vont payer plus cher, c'est faux. On est dans une notion de partenariat. On a envie vraiment de garder nos locataires qui fleurissent et qui gagnent beaucoup d'argent et qui payent leur loyer. C'est quelque chose qui va, je pense, évoluer, cette relation, fortement dans le futur. Et après, donc le quatrième point, c'est effectivement, je l'ai parlé tout à l'heure, c'est les changements de paradigme, changement de comment travailler, comment consommer, comment acheter, comment vivre. On le voit bien, le BTR, c'est le Build to Rent, c'est une classe d'actifs qui commence à prendre de plus en plus d'importance, donc le résidentiel avec service. Le bureau, on en a parlé aussi, hein, les services, aujourd'hui, quand on refait un immeuble, personne n'imagine faire des immeubles sans service, hein, ça c'est clair. Et donc, je pense que voilà, on est en plein dans ces quatre changements fondamentaux. Et je me tourne vers Christophe, c'est ça?
C'est ça?
Non, mais tu as dit beaucoup de choses, à mon avis, qui sont très très importantes.
C'est ça.
Non, mais quand on regarde l'industrie immobilière et qu'on la compare à d'autres industries, on peut dire que l'industrie immobilière n'a pas encore été disruptée, franchement. C'est-à-dire que quand on regarde le secteur de l'informatique, le cloud est arrivé dans les années 2000, et donc les entreprises ont arrêté de gérer eux-mêmes leurs actifs, ont infogéré ça par des opérateurs, ont utilisé ce dont elles avaient eu besoin et ont payé uniquement ce qu'elles utilisaient. Voilà, transport, Blablacar, Uber, entertainment, médias, Netflix. Voilà. Et finalement, nous, on a une belle industrie, hein. Il y a pas mal d'argent, il y a des gens de très bonne qualité, on fait des choses importantes, mais on n'a pas été disruptés. Et je trouve que cette slide aborde des sujets qui sont, à mon avis, très importants, Real Estate as a Service. Oui, la possibilité d'apporter de la flexibilité, style le cloud, où je peux prendre ce dont j'ai besoin et je paye ce que je prends, c'est très important. Et nous, on voit des entreprises qui sont vraiment en train de changer leur stratégie en ayant des actifs qu'elles gèrent, soit sous forme d'acquisition, soit sous forme de prise à bail. Et puis, tout un tas de satellites qu'elles flexibilisent totalement en mettant ces espaces-là chez nous. Donc, vous prenez Oracle, Oricom, Xerox, ça fait déjà des années qu'ils gardent leur siège social et transfèrent toutes les agences de province, notamment chez nous. Des exemples comme ça, je peux vous en donner beaucoup. Aujourd'hui, notre plus grand client, c'est Total, qui occupe 700 000 m², j'adorerais, mais 7 000 m² sur plusieurs espaces. Alors, ce n'est pas beaucoup, 7 000, hein, probablement par rapport à ce que vous faites, vous. Mais ça n'arrivait pas.
Croissance, on va dire.
Voilà, donc je pense que ce sujet-là est un vrai sujet. Je pense que la chaîne de valeur, elle est disponible. Il faut l'améliorer, mais je l'ai remarqué que vous êtes mes 4 bailleurs. Je suis locataire chez vous. Donc ça veut dire que vous fournissez des bâtiments.
C'est sympa ou pas?
On va en parler. Mais donc, vous fournissez une infrastructure de qualité. Moi, j'installe mon service à l'intérieur. Je le rends très flexible pour mes clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Le deuxième point, je pense que ESG, Occupier Design Flexibility, je le mettrai à peu près au même endroit, c'est l'usage. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit, nous, des usagers, je utilise le terme usager, même pas clair, des usagers, qui nous disent, je veux une localisation, et en fait, je veux plutôt un lieu, c'est-à-dire une. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette localisation-là? Alors, au début, on faisait des services généraux. Après, on a fait des services un peu plus avancés, du bien-être, de la restauration, etc. Et aujourd'hui, on est rempli d'applications où les gens font du troc à l'intérieur de nos espaces de travail, récupèrent avec le restaurateur en fin de journée les invendus qui ramènent tout ça. Enfin, ça devient quelque chose d'extrêmement social. Donc, ça, c'est un premier point qui me semble très, très important. Le deuxième point, c'est cette notion de communauté. Que nous, on prend des centres, on mesure le chiffre d'affaires qui est généré entre les différentes entreprises qui la composent. On l'a fait sur un stop and work à Fontainebleau, parce que quand on le fait dans le QCA, c'est trop facile. Fontainebleau, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires croisé, alors qu'il y a une centaine de postes de travail seulement. Donc, c'est les usages. Ensuite, les synergies dans la communauté. Et le troisième point qui, pour nous, est vraiment le grand enseignement de la Covid, c'est cette notion de nomadisme et de télétravail. C'est-à-dire que l'entreprise a 30 ans, on a 3500 sites dans le monde. En 30 ans et 3500 sites, on avait 3,2 millions d'utilisateurs, des gens qui viennent chez nous, soit pour du coworking, soit pour des bureaux privés, ce qu'ils veulent. On est passé du 1er janvier 2021 à aujourd'hui à 5 millions. C'est-à-dire qu'on a pris 2 millions de plus. 90% de ces utilisateurs-là ne nous ont pas pris de bureau, ils nous ont pris un abonnement au réseau.
C'est-à-dire qu'ils ont une carte, les entreprises équipent leurs collaborateurs d'une carte. Ces gens-là viennent dans n'importe quel site à proximité de l'endroit où ils se trouvent, à côté de chez eux, à côté d'un client, etc. Font un check-in à l'entrée, un check-out à la sortie, et l'entreprise est facturée du temps passé. Voilà, donc, et ça, ça a été l'accélération très très forte des gens qui viennent chez nous. Et donc, derrière ça, c'est vraiment un aménagement des organisations du travail. Et là, c'est là où je trouve qu'on a une chance extraordinaire dans l'immobilier, c'est qu'on a la possibilité de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, qui est l'organisation du travail, l'engagement des people, etc. Et donc, de contribuer à la réussite des entreprises, parce qu'on sait que les entreprises réussissent si les people sont engagés et donnent qualité. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, et c'est surtout très inspirant.
D'autres réflexions par rapport à
peut-être Arnaud, sur comment les promoteurs s'adaptent pour répondre à ces besoins futurs.
Alors, les besoins futurs, déjà, il y a certains besoins là-dessus qui sont des besoins de l'âme de fond, et notamment le real estate as a service, hein, aussi bien dans la construction que dans la promotion. Le service a depuis une dizaine, une vingtaine d'années, a déjà été pris en considération comme étant un élément indispensable. Je voulais peut-être revenir sur un sujet dont on n'a pas parlé beaucoup, mais Raphaël a fait une blague tout à l'heure sur le commerce comme étant un gros mot. Le commerce a subi des chocs importants. Hein. Le premier choc a été le e-commerce, l'arrivée du e-commerce, donc a pétrifié tout le monde en disant, évidemment, on n'a plus vocation à avoir des lieux physiques pour exercer notre profession, étant donné qu'il y a maintenant la place du e-commerce. En fait, c'est un des phénomènes qui a chamboulé le commerce, mais il y a des perturbations qui ont été créées par le Covid, qui ont été des chocs ultra brutales, qui sont arrivés, qui sont les conséquences de en fait, on a pris les dés, on les a rejetés à nouveau, et ils sont mis dans une configuration différente. Si vous allez dans des endroits où le commerce s'est développé autour des lieux tertiaires de bureaux, et que les bureaux deviennent inoccupés, la réalité sur ces commerces est à remettre en cause complètement. Et donc, on a une redistribution qui se fait. Un restaurateur dans une zone de bureaux dont les bureaux sont vides ne peut pas subsister. Donc, on a, je pense, sur le commerce notamment, toute une histoire à réécrire, qui est l'abandon, bien sûr, des hypermarchés qui sont maintenant une imposition ouverte et annoncée. Pour une redistribution des commerces, qu'on a toujours besoin de ces commerces physiques. Imaginez qu'on puisse tous manger avec du e-commerce et de convivialité et autres, mais qui se relocalisent à d'autres endroits. Donc, le problème de tout ça, c'est que notre métier, c'est un métier qui est un métier dans le long terme, et les chocs qu'on subit sont des chocs extrêmement brutaux. Enfin, celui du Covid a été le plus important. Qui nécessite des réponses immédiates. Donc l'adaptation, elle est compliquée et sur les éléments comme le désir de flexibilité et le changement des demandes des consommateurs, c'est des éléments qui sont immédiats sur lesquels notre outillage en fait a une difficulté à répondre aussi rapidement. Le reste sont plus, enfin, je dirais pour l'ESG, c'est une prise de conscience importante, et elle doit être encore plus importante. Et pour moi, elle n'est pas liée à une réglementation, elle est liée vraiment à une prise de conscience des investisseurs. Il n'y a pas besoin de la régulation pour que les investisseurs décident d'avoir un caractère vertueux dans leurs investissements, qui va driver quand même beaucoup de choses. Et puis le service, comme je disais, c'était quelque chose déjà qui est plutôt une tendance de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit une inadéquation, je dirais, entre les produits qu'on offre et qui s'inscrivent dans du long terme, avec une définition à une date donnée de ce que va être le futur, et le futur est complètement chamboulé aujourd'hui, avec des réactions très, 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 très rapides qu'il faut pouvoir satisfaire.
Et moi, du coup, pardon, je voulais juste intervenir, parce que je rejoins complètement ce qu'a dit Christophe. Moi, je crois beaucoup au développement, évidemment, du nomadisme, et du coup, du besoin d'utiliser du bureau de manière ponctuelle, l'abonnement chez des coworkers, etc. Moi, me paraît être une tendance peut-être aujourd'hui pas très importante en volume, mais de fond. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, c'est-à-dire que On sait que les investisseurs vont devoir investir massivement pour transformer les actifs, pour les rendre vertueux, sobres en termes de consommation énergétique, etc. Et pour ce faire, on a besoin d'engagement. Et pour le coup, moi, ce que je salue, et même si là, encore une fois, ponctuellement, la Covid a créé un peu de chamboulement pour certains des coworkers, mais fondamentalement, je pense qu'on va avoir besoin de travailler ensemble parce que nous, on va faire des investissements longs et vous prenez un engagement long en face à finalement des engagements courts. Donc, vous faites cette transformation d'engagement court nomade en un engagement de beau long terme qui nous sont absolument nécessaires pour pouvoir envisager la rénovation ou la transformation urbaine et d'usage. Donc, moi, je pense qu'on va être amené à être encore davantage votre bailleur parce que je crois beaucoup, effectivement, à ce phénomène.
Pour terminer, en fait,
il transfère son risque.
Bah, moi, je suis ravi que le risque de transformation me va très bien.
Pour terminer en fait cette présentation, en fait, on a vu un peu les objectifs et enfin, voilà, les sujets auxquels l'industrie est confrontée. Et effectivement, donc, du coup, il y a comment on y arrive finalement à les affronter, ces différents sujets. Donc, c'est la question qui a été posée. Et donc, notamment, quels sont les sujets qui vont ralentir cette transformation et puis sur la slide suivante, ceux qui vont permettre de les accélérer. Et donc, ce qu'on voit finalement, c'est que le principal sujet, c'est la culture de l'entreprise, en fait. Parfois aussi, qui dépend aussi un peu de la culture du pays. Et le fait de prendre des risques. Donc, je pense qu'on a beaucoup évolué sur ces sujets en France, mais il y a encore un ADN dans beaucoup d'entreprises sur cette perception de ne pas prendre de risques, au risque de se tromper, de faire des erreurs. Donc, le test and learn, on va dire, c'est encore quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas forcément toujours mis en œuvre. Sur les aspects finalement qui vont permettre cette transformation, on voit qu'il y a un aspect technologique qui en fait pousse et qui pousse à la transformation et qui finalement permet finalement de faire passer des nouveaux usages et des nouvelles façons de faire. Et puis il y a tous ces aspects environnementaux, sociétaux, etc. Peut-être Tania, sur ces sujets-là, de comment on fait pour faire évoluer l'organisation, les entreprises immobilières, pour faire face à tous ces challenges post-Covid, comment tu vois ce sujet, en fait?
La barrière principale, on en avait parlé, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment que l'immobilier, c'est encore une industrie très traditionnelle. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les nouvelles technologies et c'est vrai que c'est très, très agile, c'est très dynamique. Et peut-être un des points positifs de la pandémie, c'est que justement, on a pris conscience qu'il faut se digitaliser, il faut prendre en compte les critères ESG, il faut avoir une approche beaucoup plus servicielle, tout ce qu'on a dit lors de ce panel, donc ça devient très très important. Et aussi, il faut changer un peu l'état d'esprit, le mindset des équipes. Ça commence par le management, donc déjà le manager doit rendre l'exemple et faire confiance à leurs équipes, mettre en place un management beaucoup plus collectif. Et aussi, il faut que les collaborateurs, qu'il y ait différentes expertises, finalement, un peu d'expertise dans l'entreprise et que ces collaborateurs aussi soient aussi capables et prêts à prendre un peu plus de risques. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, c'est que pour atteindre le même rendement qu'avant, il faudra qu'on prenne plus de risques qu'avant, les engagements des bourses, comme on disait tout à l'heure, des utilisateurs vont être plus courts, ils ont moins de visibilité, on trouve plus d'actifs déjà prêts, je veux dire, à générer un cash flow, il faut travailler les actifs, il faut simplement les repositionner, il faut les restructurer, il y aura de la vacance. Donc c'est vrai qu'il faut changer cet état d'esprit, cette mindset, et ça commence par le management et bien sûr aussi les collaborateurs et c'est là aussi où tous ces sujets qui sont évoqués ici me semblent très importants, donc la digitalisation, avoir du data intelligent, prendre des décisions par rapport à des informations je veux dire qu'on a dans l'entreprise que parfois on a mal à collecter, mal à interpréter, mais si on n'a pas des bonnes données, on ne peut pas prendre les bonnes mesures. Donc la digitalisation, c'est la je pense que c'est la clé. Et moi, en première position, par contre, j'aurais mis tout ce qui est ressources humaines. C'est vrai que l'humain, pour moi, revient au centre de l'attention. Moi, je vois que les enjeux...
C'est le principal pour changer la culture de l'entreprise.
C'est le principal pour changer la culture. Et c'est vrai que trouver des bons collaborateurs, fédérer une équipe, retenir les talents, retenir les jeunes qui viennent maintenant avec un ADN complètement différent du nôtre, tout ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ce que tu disais, maintenant, les jeunes, ils veulent avoir une expérience, ils veulent être... socialisés dans l'entreprise, ils veulent avoir des échanges, ils n'aiment pas faire le home office, ils ne veulent pas rester à la maison. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les seniors, hein, managers aussi, qui ont besoin de cet échange. Pour moi, l'aspect humain revient au centre. C'est ceux qui auront les bonnes équipes demain sont ceux qui vont réussir tous ces défis, tous ces challenges, que ce soit technologique, j'ai ou autre chose. J'en suis convaincu.
Moi, je rebondis, en fait, la semaine dernière, on avait eu la conférence ULI, dont on parlait tout à l'heure, Geoffroy, où Tamara a parlé justement des usages des générations, et elle disait, en fait, les générations, nos générations, dans les générations dans lesquelles on a imposé les choses, en fait, nous, on a suivi, hein, on faisait, on fallait au bureau, on revenait, on fait ci, on fait ça. Et alors que les nouvelles générations, on leur impose pas. Et c'est ça le truc, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas prendre le pli. Et effectivement, c'est pour ça qu'il va falloir changer fondamentalement pour s'adapter à ces générations-là.
En complément de ce que tu dis, Tamara, qui, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est relativement jeune, parlait de la jeune génération en disant que c'était des ovnis. Elle a utilisé le terme. Et moi, je me suis dit qu'effectivement, enfin, c'est ce que nous, j'indiquais qu'on recrute à peu près 1500 personnes et on a fait un gros travail de transformation, on est passé en flex, etc. Et on travaille sur ces sujets de mobilité, on voit bien que les choses s'accélèrent. Effectivement, les nouveaux collaborateurs ont des attentes très disruptives. Et donc, il y a un enjeu, je suis d'accord, de changement culturel en repartant de cette nouvelle génération qui apporte aussi beaucoup d'innovation, beaucoup d'esprit de test and learn et d'entrepreneuriat. Alors, on leur trouve beaucoup de défauts sur certains aspects, mais sur... De ce point de vue-là, ils sont très en avance par rapport à nos générations qui avaient peut-être un côté un peu plus administratif, ou on va dire, je pense que ça remet en cause et on comprend bien pourquoi sur le premier enjeu, c'était la culture d'entreprise, hein, parce qu'on voit que ça, c'est un frein majeur et qui passera par effectivement peut-être des ressources nouvelles qui vont disrupter en fait finalement l'ADN de certaines entreprises.
Mais c'est pas entre cette slide-là et la suivante, hein, l'enjeu majeur, c'est le changement de culture et le dernier axe pour y arriver, c'est la diversité. C'est assez étonnant. Oui.
Même si c'est 73%.
Oui, oui.
On arrive peut-être au bout de cette présentation. On voit que c'est très riche, hein. Il y a beaucoup de sujets. En fait, c'est beaucoup qualitatif, mais je pense qu'on a couvert un certain nombre des enjeux en fait, de l'industrie, au-delà de parler juste des actifs, parce que l'industrie immobilière, ce ne sont pas que des actifs. Il y a aussi des gens, il y a aussi des enjeux du service, comme on en a beaucoup parlé. Donc, merci à tous. Peut-être qu'on va prendre une ou deux questions, s'il y a une ou deux questions dans la salle, avant d'aller boire un pot tous ensemble pour ceux qui sont en présentiel et de remercier ceux qui étaient à distance. Petite question, pas de question.
Alors, moi, je vais me permettre de poser une question.
Vas-y.
On a vu pas mal de nouvelles tendances, nouvelles pour certaines pas vraiment, hein, mais des tendances qui s'affirment. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a loupé des choses, qu'il y a des tendances qui vont arriver qui n'ont pas été présentées aujourd'hui?
Oui, moi, il y en a une, et notamment sur l'aspect ESG, où on fait référence en fait à l'amélioration de la qualité de nos infrastructures par le biais de la technologie, de la qualité des matériaux, une certaine prise de conscience collective. Il y a un aspect qui est développé au titre du développement durable. Hein. Il y a deux écoles, enfin, qui ne sont pas forcément en contradiction, mais l'école technologique où on va effectivement améliorer notre qualité de vie, réduire notre production de CO2 par le biais d'un contrôle et une qualité de bâti important. Et puis, il y a un élément qui est la frugalité et qui est une tendance qui, à mon avis, colle parfaitement de votre génération, hein, je reprends des références, qui prendra certainement plus de temps pour produire ses effets, mais peut-être avec un effet plus durable, en fait, si je peux me permettre du mot. Et en fait, évidemment, quand on
on investit, on dit, il faut avoir des choses sur lesquelles investir. Donc, quand on. Frugalité ne veut pas dire décroissance, mais en tout cas, c'est un état d'esprit pour poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de réaliser cet investissement? Est-ce que j'ai vraiment besoin de bâtir? Ou est-ce que je peux rénover? Ou est-ce que je peux faire les choses différemment? Ou me priver de certaines choses? Voilà. Donc, je pense que c'est une tendance de fond de plus en plus présente qui impacte notre économie et toutes les économies et sur lesquelles on n'a peut-être pas beaucoup de regard.
Alors, c'est un très bon point. J'ai parlé à un de tes confrères, j'essaie de ne pas trop leur parler. Mais quand même, et il y avait un discours assez comparable, c'est-à-dire sur la sobriété ou la frugalité des bâtiments et sur la technique qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les nouveaux bâtiments, enfin, j'imagine que chez vous c'est pareil, les réflexions sont est-ce qu'on a besoin de clim partout? Est-ce qu'on on peut se permettre d'avoir du rafraîchissement dans certains endroits, etc.? Est-ce qu'on a une manière de ventiler les bâtiments différents, etc.? Et finalement, mettre pas forcément autant d'argent dans la technique des bâtiments et trouver une manière de faire vivre ces bâtiments de manière différente, plus efficace, beaucoup plus ESG et finalement probablement moins onéreuse. Enfin, j'ai l'impression que voilà, ça fait partie des réflexions que vous êtes forcément en amont
qui est valable au niveau du bâtiment, mais qui est aussi valable au niveau du quartier, de la ville. Et donc, ça intègre la mobilité, ça intègre le circuit court, et donc qui est plus économe en infrastructure. Hein, et je pense qu'il faut le prendre en considération parce que ça peut être un ralentissement sur la réalisation d'infrastructures et qui, pour autant, est un bien-être pour l'humanité. Donc, il faut qu'on sache intégrer cette dimension.
Il faudra intégrer aussi l'avis de l'utilisateur, parce que si l'utilisateur continue à nous demander une clim, un immeuble neuf…
Il faut le former.
Oui, il faut le former. Oui. Donc, il faut qu'on trouve un consensus où, justement, on est environnementalement responsable et en même temps, on a des immeubles performants. Donc, je pense qu'il faut plus de dialogue finalement entre vous, les investisseurs, les partenaires, les utilisateurs, parce qu'il faudra que tout le monde fasse un effort. Ça c'est sûr.
Merci Tania. Merci à vous. Merci Geoffroy, encore une fois. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va mettre un terme à cette conférence. Geoffroy nous invite.
Tout à fait. On est ravis de vous inviter dans cet endroit un peu disruptif et je vous invite à le visiter parce que voilà, c'est un endroit où on essaye effectivement d'accompagner nos clients dans leur transformation. Et donc, je trouvais que c'était un bon endroit pour effectivement faire cette conférence. Merci aux équipes ULI pour être venus et avoir organisé cet événement. Et à tous nos panélistes, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était merci. Et puis à l'année prochaine, donc on verra si l'année prochaine la frugalité fera partie des sujets qui seront mentionnés par les interviewés. Merci, bonne soirée.
Merci.